RJB Info.
Le journal, Célia Berthollet, bonsoir.
Bonsoir à tous. 35 mois de prison, c'est la peine prononcée contre un cambrioleur qui a sévi dans tout l'arc jurassien. Avec ses complices, il a commis pas moins de 23 effractions. Résumé du verdict dans ce journal. La loi sur le CO2 a été largement acceptée aujourd'hui par le Parlement fédéral après 4 ans de discussion. Il s'agit d'une réelle avancée pour faire face à la crise climatique, mais ce n'est qu'un premier pas, on l'entendra. Paris secoué par une attaque à l'arme blanche dans les anciens locaux de Charlie Hebdo. Cette agression survient en marge du procès des auteurs de l'attentat de 2015. Notre correspondante fera le point sur les premiers éléments tout à l'heure. Et météo, après l'accalmie de cet après-midi, la pluie va revenir en force ce soir et cette nuit. La limite pluie-neige va même s'abaisser à 1000 mètres. Demain, toujours des averses, surtout le matin. Ça se calme l'après-midi pour mieux reprendre en soirée. On attend 7 à 10 degrés au maximum. Mais d'abord cette information, H&M quitte le centre-ville de Bienne. Selon nos informations, des travaux auront lieu dans le bâtiment de la rue Flora. Le magasin de vêtements a donc décidé de fermer définitivement ses portes dans la cité célandaise. Il y était installé depuis 1993. Une porte-parole nous a indiqué que les 29 employés seront transférés dans d'autres filiales de la région. La date de la fermeture n'est pas encore connue. 35 mois de prison, c'est la peine prononcée cet après-midi par le tribunal régional Jura-Bernois-Seeland à l'encontre d'un trentenaire roumain. L'homme domicilié en Belgique comparaissait depuis mardi devant la justice à Moutier pour une série de 23 cambriolages menés à travers tout l'arc jurassien. Les délits ont été réalisés avec d'autres complices entre février et octobre 2017. Récit d'audience avec vous, Natacha Mengoli.
La défense a très bien fait son travail, mais cela n'a pas suffi. D'entrée de jeu, la présidente du tribunal a donné le ton. Le prévenu venait en Suisse dans le seul but de commettre des vols, a souligné Marie-Vonne Piquejean-Dupeu. L'homme incarcéré à Bienne a dérobé avec ses acolytes pour près de 140 000 francs de butin, visitant des maisons de Fontenay au Locle en passant par Sonsbeau ou encore Saint-Imier. C'est plus que le salaire annuel moyen d'un citoyen, a remarqué la juge en charge du dossier. L'homme qui avait laissé des traces ADN sur les lieux d'infraction a sans surprise été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui le visait, notamment vol en bande et par métier, mais aussi dommage à la propriété. Ici, le vol ne paie pas, même si nos prisons sont confortables. Voilà donc comment se terminent vos vacances en Suisse, a conclu amèrement la présidente Piquejean-Dupeu.
Une fois ces 35 mois de prison purgés, l'inculpé sera exclu du territoire suisse pour une période de 10 ans. L'industrie, un levier important pour faire rayonner la région. Ce secteur constitue d'ailleurs le 8e volet de mesures dans le cadre de la stratégie économique 2030 du Jura-Bernois. La Chambre d'économie publique a détaillé ce matin les 25 propositions qui concernent cet axe baptisé industrie et technologie. Les actions concernent notamment le champ de l'innovation et l'amélioration des relations extérieures. Avec l'élaboration de ce dernier paquet de mesures, la CEP arrive au terme d'une première étape importante dans la mise en œuvre de son plan de stratégie économique. Son directeur, Patrick Linder.
À l'heure de clore cette phase fonctionnelle qui a vu finalement la description des étapes à suivre sur le chemin qui mène vers 2030, c'est une grande satisfaction parce que le but premier d'une stratégie, c'est de donner une représentation commune, un objectif commun, et ça c'est atteint. Nous avons pu fonctionner dans une collaboration inédite avec l'ensemble des acteurs régionaux, et ça renforce clairement la région et les projets qui la serviront.
À présent, la CEP va garder un œil sur l'évolution et la mise en œuvre de chacun de ces objectifs fixés dans les différents axes ?
Mais absolument, c'est désormais une phase opérationnelle qui est lancée, qui assistera dans les 10 prochaines années à la concrétisation d'une part importante des mesures qui ont été annoncées. Évidemment, la Chambre d'économie publique du Jura-Bernois ne peut pas tout faire. Elle le fera en collaboration avec toutes les instances et les institutions régionales. Mais le but, c'est de réaliser un maximum des actions recommandées dans cette stratégie économique 2030 du Jura-Bernois.
Patrick Linder répondait à Natacha Mengoli. Le NMB collabore avec des industries de la région. Le nouveau musée Bienne présente deux nouvelles expositions, Hello Robot et Bill Bienne 4.0. La première explore notre rapport avec les robots au quotidien et la deuxième parle de la place des machines dans le monde du travail. Et pour cette installation, le commissaire de l'exposition, Florian Etel, a fait appel au savoir-faire local.
Le côté historique, on l'a ici au musée, les machines de vieille époque, on l'a au musée, mais pour l'actualité, j'ai cherché des partenariats, des institutions qui sont vraiment dans la recherche pointu de moment. On a une entreprise aromatique à Le Londres qui nous a fourni le Next Stage, un robot humanoïde. Nous avons travaillé avec l'autre école technologie, avec l'institution Human Centered Studies de robotique qui développe des robots, qui ont fait une station où on peut même programmer un robot. Et avec Swiss Smart Factory, qui fait partie de Swiss Innovation Park, qui nous ont fait une imprimante 3D, qui nous imprime des robots. Toutes choses qui maintenant sont en train d'être utilisées des entreprises et qui sont tout au début de l'implantation dans le tissu industriel biennois.
En dehors des entreprises, une collaboration est aussi souhaitée avec les visiteurs. C'est le cas dans une salle appelée la salle du savoir perdu. Florian Etel.
Le concept de la salle du savoir perdu, c'est que les machines en soi-même ne portent pas de savoir. Il faut toujours le savoir des êtres humains qui ont travaillé avec ces machines. Et au musée, nous avons beaucoup de centaines de machines qu'on a peu d'informations sur les machines. Comment elles étaient utilisées? Pourquoi? Dans quelle branche? Et pour ça, nous invitons aux gens qui connaissent ces machines, dans le travail de l'époque, à leur transmettre le savoir.
Les deux expositions seront vernies ce soir et visibles jusqu'en janvier. Évoquer la Suisse à l'étranger, il est bien possible qu'on vous parle tout de suite de montres. La Suisse concentre aujourd'hui l'essentiel de la production horlogère mondiale avec le Japon et la Chine. Et pourtant, le pays a dû se faire sa place sur ce marché qui s'est globalisé au fil des siècles. Cette histoire de l'horlogerie est racontée par l'historien jurassien Pierre-Yves Donzé. Dans son dernier livre intitulé « Des nations, des firmes et des montres », il explique comment, au XIXe siècle, la Suisse a bien failli perdre sa place dominante face aux nouveaux concurrents américain.
La Suisse maintient sa domination totale du marché mondial au cours de ce siècle, mais elle est mise en cause de manière très sérieuse par les États-Unis suite à la mécanisation. Les Américains sont les premiers, dans les années 1860, à mettre sur pied des usines mécanisées dans lesquelles on fabrique des montres, c'est-à-dire des produits de qualité qui sont extrêmement bon marché. Pourquoi est-ce que ces entreprises apparaissent aux États-Unis et pas en Suisse ? La Suisse est encore un pays pauvre, à main-d'œuvre bon marché, c'est un pays d'immigration, encore la Suisse à cette époque. Donc, on peut employer très facilement des employés sans trop les payer. En revanche, aux États-Unis, on a un pays à salaire très élevé, ce qui fait que les entrepreneurs, pour économiser sur le coût du travail, investissent dans des nouvelles technologies, dans la construction d'usines et dans des machines.
L'historien Pierre-Yves Donzé, ici au micro de Vincent Jacquat, son livre « Sur l'horlogerie » est paru cette année. 129 voix pour, 59 contre au Conseil national, 33 à 5 aux États. La loi sur le CO2 a aisément passé la rampe du Parlement fédéral en votation finale aujourd'hui. Seule l'UDC l'a rejetée, promettant de l'attaquer par référendum. Adoptée après 4 ans de turpitude parlementaire, cette loi constitue une réelle avancée politique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais ce n'est qu'un premier pas. L'analyse d'un des pères de cette loi, le conseiller national socialiste vaudois Roger Nordmann.
Il y a encore d'autres choses qu'il faudra faire ensuite, par exemple agir sur les émissions qui sont déterminées par la place financière. Il faudra un jour s'occuper des émissions de l'agriculture qui ne sont pas traitées par cette loi. Mais elle permet quand même d'avancer fortement ces prochaines années. Elle permet en Suisse de passer d'environ moins 18% qu'on a eu de baisse depuis 1990 à moins 37% jusqu'en 2030. Puis il y a plein d'instruments, dont la taxe sur les jets privés, qui sont efficaces. On renforce le soutien à l'assainissement des bâtiments. C'est une loi positive. Après, si j'avais pu décider seul, je l'aurais fait plus forte, la loi, ça c'est sûr.
Et plus de 1000 personnes étaient présentes à Berne aujourd'hui pour la grève du climat. Les manifestants se sont rassemblés sur la place Helvetia 3 jours après le démantèlement d'un camp d'activistes devant la place fédérale. Les nouveaux cas de coronavirus en légère hausse en Suisse. Selon l'OFSP, dans les dernières 24 heures, 372 cas positifs ont été détectés sur 12 346 tests, soit un taux de positivité d'un peu plus de 3%. Dans le canton de Berne, 36 cas supplémentaires ont été annoncés et une personne a pu quitter l'hôpital. Les enfants présentant des symptômes du Covid-19 doivent s'isoler. Il s'agit d'une nouvelle directive de l'Office fédéral de la santé publique. Elle concerne les jeunes de moins de 12 ans. Et toujours au sujet de la pandémie, les Suisses devront réfléchir à deux fois avant de se rendre au Royaume-Uni, au Portugal ou en Belgique. Ces pays font partie des 15 nouveaux territoires à risque. Dès lundi, les voyageurs devront se mettre en quarantaine pendant 10 jours à leur retour. La liste compte désormais un total de 59 pays. Paris a été le théâtre d'une attaque à l'arme blanche aujourd'hui. Un homme a grièvement blessé deux personnes qui se trouvaient près des anciens locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Deux suspects ont été interpellés par les forces de l'ordre et le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Les précisions de notre correspondante en France, Stéphanie Wenger.
Beaucoup d'informations ne sont pas encore confirmées, mais ce que l'on sait, c'est que l'attaque s'est produite ce matin près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Un homme, jeune, a attaqué deux employés d'une société de production avec un hachoir de boucher. Les deux personnes sont gravement blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger, selon le Premier ministre français. On sait peu de choses encore sur le terroriste. Il serait âgé de 18 ans, mais on ignore son identité. Un autre homme de 33 ans a été arrêté. On ne sait pas encore comment il est impliqué. Des perquisitions sont en cours dans le Val d'Oise, le dernier domicile connu de l'assaillant. Le traumatisme est fort, d'autant qu'en ce moment a lieu le procès des attentats qui ont visé Charlie Hebdo et l'Hypercacher en janvier 2015 et qui ont fait 17 morts en tout. À cette occasion, des menaces ont été émises à nouveau contre le journal satirique qui a republié les caricatures du prophète Mohammed. Pourtant, selon les responsables de la société de production qui était déjà installée ici à l'époque des attaques en 2015, aucune protection policière n'était en place autour des anciens locaux de Charlie Hebdo depuis le début du procès.
À l'écoute d'RJB, il est 18h11.
Sport.
Le HC Moutier accueille une nouvelle présidente. Dominique Pétheux a été élue à l'unanimité mercredi à la tête du club prévotois de 2e Ligue. La native de Moutier succède à Francis Part qui a démissionné cet été. Marilyn Beuchat et Marco Fernandez rejoignent aussi le comité pour compléter l'équipe dirigeante suite au départ de Daniel Ortiz et Michael Pétheux.
Merci Célia Berthollet. Nous, on a rendez-vous avec de la musique, évidemment, hein, Genesis In The Bubble Touch. À 18h20, on prend l'air, mais avant cela, il y a la météo, évidemment.
La météo avec le Casino Barrière Courant de l'Ain et son restaurant Steakhouse le 12. Heureux de vous accueillir à nouveau.
Et dans votre menu météo, pour ce soir, nous devrions profiter d'une petite accalmie avant que les averses ne se réactivent durant la nuit, et ce dans toute la région. Attention, la limite des chutes de neige s'abaissera à 1000 mètres. Demain, nous nous réveillerons sous la grisaille et la pluie, un régime qui devrait nous accompagner jusqu'en après-midi, où le temps deviendra plus changeant, en tout cas en pleine. Dans les hauteurs, par contre, le ciel restera bouché. A noter que le vent soufflera fort à toutes les altitudes. Concernant les températures, elles seront bien fraîches pour la saison d'après Météo News. Il fera entre 4 et 7 degrés à l'aube. Pour la seconde partie de journée, le mercure devrait atteindre timidement 7 degrés dans les vallons du Jura-Bernois, 9 à Moutier, maximum 10 degrés autour du lac de Bienne. Dimanche, quant à lui, sera assez similaire. Le thermomètre devrait remonter gentiment à partir de lundi.
La météo avec le Casino Barrière Courant de l'Ain et son restaurant Steakhouse le 12. Nous nous occupons de tout, surtout de vous.